le club de C'est pas du vent sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, soyez les bienvenus dans le club de C'est pas du vent. Avec les journalistes de RFI et d'autres médias, nous faisons le tour de l'actualité environnementale internationale. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Bellan du quotidien Les Échos. Bonjour Marie.
Bonjour, merci de votre invitation.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Simon Rosé du service environnement de RFI.
Bonjour.
Igor Strauss du même service.
Bonjour à tous.
Et Nina Karel de la rédaction russe de RFI. Bonjour à toutes et à tous. Et en une phrase, de quoi allez-vous nous parler, Marie ?
Alors, je vais vous parler de justice climatique et notamment des obligations des États en matière de changement climatique.
Simon ?
De finances et comment on peut restructurer sa dette pour financer des projets de conservation de la nature.
Voilà, ça a l'air technique comme ça, mais vous verrez, c'est passionnant. Et Igor ?
De la COP16 à Riyad, qui se déroule actuellement à Riyad, puisque nous irons la semaine prochaine.
Oui, nous irons ensemble, et la COP16 qui parle donc de lutte contre la dégradation des terres. Nous vous en parlons beaucoup sur RFI et nous sommes l'un des rares médias à en parler. Nous allons y revenir. Nous irons aussi en République démocratique du Congo avec la chronique des clubs RFI de Audrey Yatoni qui en revient, et le film Hip-Hop qui nous permettra de rencontrer un fabricant de braises écologiques à Goma. Vous avez le programme, c'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et nous commençons par un petit tour de ce qui vous a choqué et étonné, surpris ou amusé, on peut espérer, on peut toujours rêver, dans cette actualité. Marie, vouliez nous parler du Japon.
Exactement, qui est connu, comme vous le savez tous, pour les cerisiers en fleurs, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi une attraction touristique que les parcs et jardins, une fois l'automne arrivé, puisque les feuilles deviennent des couleurs splendides, mort dorée, chatoyante. Enfin, c'est une vraie attraction touristique.
On boucle sur les réseaux sociaux.
Voilà, donc c'est très beau. On observe ça habituellement en octobre, novembre, mais là, c'est au mois de décembre que ça arrive. Alors, ça chamboule un peu l'agenda des
organisateurs. Touristique.
Voilà, exactement, qui doivent un peu s'adapter, mais ce n'est pas le plus grave. Ce que ça traduit surtout, c'est bien sûr le réchauffement climatique, donc qui touche tous les pays. Et c'est vrai que donc, l'agence météorologique japonaise a confirmé hier que donc, l'automne 2024 avait été le plus chaud enregistré au Japon depuis qu'on fait des relevés de température, donc depuis 1898. On a enregistré, par exemple, il disait voilà, des températures de supérieures à 2,4 degrés à Tokyo pendant cette période par rapport à la normale saisonnière. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup.
Ouais, c'est
ça
beaucoup.
Confirme. Alors la Chine a annoncé la même chose ce matin. D'ailleurs, son agence météorologique a annoncé aussi que c'était l'automne le plus chaud. Ce qui confirme donc que 2024 sera vraisemblablement, même si on n'est pas à la fin de l'année, encore l'année la plus chaude.
Et vous savez quoi, je prendrais bien à Paris. Je pense que 2025, 2026, 2027.
Il y a des chances. Mais ce qui était inquiétant, et ce que disait l'observatoire européen Copernicus, c'est qu'en 2024, on a déjà atteint les plus 1,5 degrés de réchauffement moyen sur les 12 derniers mois, ce qui est quand même très inquiétant. Voilà, on n'a pas complètement encore échoué à respecter l'accord de Paris, mais on n'en prend pas le bon chemin.
Oui, après, ça se réchauffe. On sait qu'il y a aussi le phénomène El Niño, hein, Simon qui en a rajouté. Peut-être que ça va rebaisser un petit peu.
On espère. Mais ce qu'on voit, par exemple, là, c'est que les températures océaniques, normalement, qu'on surveille de très près, notamment de l'Atlantique, restent quand même à des niveaux très, très, très élevés. Ça descend pas autant que ça aurait dû redescendre avec le phénomène El Niño. Et j'ajoute juste sur le Japon, ce qui est rigolo, c'est que les cerisiers en fleurs, c'est la plus vieille série climatique de l'histoire de l'humanité. En fait, ils le notent depuis l'an 300 ou quelque chose comme ça, la date à laquelle les cerisiers entrent en floraison au mois de mars. Et on voit au fur et à mesure que ça devient de plus en plus précoce à mesure que les printemps sont de plus en plus chauds.
Alors Simon, puisque vous avez la parole, vous vouliez nous parler d'une énigme résolue.
Oui, celle des éléphants botswanais. Je ne la connaissais pas, mais je l'ai découverte via sa résolution cette semaine. 350 éléphants étaient morts en 2020 au Botswana, dans le delta de l'Okavango. On ne savait pas trop pourquoi. Il n'y avait aucune stigmate, aucune trace de blessure. Donc il y a tout un tas de théories sur une maladie inconnue, sur un empoisonnement au cyanure de la part de braconniers. Et en fait, il s'avère que la coupable s'appelle la cyanobactérie. C'est un micro-organisme invisible à l'œil nu qui pullule dans les points d'eau douce, chaude notamment, et qui peuvent faire des colonies d'espèces d'algues un peu à la couleur caractéristique bleu-vert. Les conditions météorologiques au Botswana dans cette période-là étaient réunies. Il faisait chaud, il avait beaucoup plu avant, donc ça avait apporté pas mal de nutriments pour que ces colonies se développent. Et les éléphants n'avaient pas eu d'autre choix que de boire cette eau toxique. Et en sont morts un peu après. Là, on a eu la réponse parce qu'en fait, les scientifiques ont étudié des vieilles photos satellites de cette époque et ont vu que les points d'eau étaient de cette couleur-là. Et j'ai découvert l'existence du terme d'événement de mortalité massive d'animaux, ce qui arrive justement quand il y a tout un gros groupe d'individus qui meurent d'un coup.
Et l'exemple le plus fréquent,
voilà. Ouais. 2015, le Kazakhstan, 250 000 antilopes saïga. En une semaine, qui sont mortes. 250 000 à l'occasion d'une des grandes migrations. C'est une des grandes migrations de la planète. Il y a plusieurs millions d'individus qui se déplacent. Là, il y en a 250 000. Encore une fois, en raison des conditions météorologiques, il faisait 37,5 degrés, 38, beaucoup d'humidité. Donc, une bactérie a pu passer dans leur sang. Et en fait, elles ont fait un empoisonnement du sang, une septicémie hémorragique, comme on dit. Et ces événements de mortalité massive... C'est dur de relier toujours un événement précis avec le réchauffement climatique, mais on voit qu'il y a quand même des tendances. Disons que les conditions dans lesquelles ils peuvent se produire sont plus fréquentes aujourd'hui avec les conséquences du réchauffement climatique.
Nina Carrel, vous vouliez nous parler du plastique. Vous avez vu une bonne nouvelle et en ce moment, nous en avons bien besoin.
En effet, surtout, on a besoin du plastique biodégradable. Et au Japon, les chercheurs de l'Institut Riken et de l'Université de Tokyo ont développé un plastique supramoléculaire aussi solide que les plastiques classiques, mais biodégradable. Ce matériau se décompose en quelques heures dans l'eau de mer et en quelques jours dans le sol, où il enrichit la terre en azote et en phosphore. On l'appelle supramoléculaire car les liens entre les molécules sont très faibles, similaires à ceux de l'eau. Et l'eau peut passer de l'état solide à l'état gazeux. Cette avancée est d'autant plus importante que le sommet international sur le plastique à Busan n'a pas abouti à un accord. Et actuellement, sur les 460 millions de tonnes de plastique produits chaque année dans le monde, seulement 9% sont recyclés.
Igor Strauss, votre étonnement est médiatique.
Oui, c'est le manque d'engouement en fait, de la presse pour la COP désertification, la COP dégradation des sols en ce moment à Riyad. Toute la précontention de nos petits camarades de la presse française, on se rend compte que personne n'ira, nous serons bien seuls, Anne-Cécile.
Alors,
alors qu'ils étaient tous à la COP climat. Et quand on pense qu'un sol, évidemment, ça permet de nourrir la planète, mais un sol en bonne santé, évidemment, permet de stocker du carbone. C'est donc une des solutions à cette crise climatique. Et ce intérêts, ce manque de moi, enfin je sais pas comment l'expliquer, voilà, ce manque d'intérêt de la presse française et internationale même, on va dire, me sidère parce que c'est une partie de la solution.
Et oui, c'est vrai que c'est sidérant. Vous savez, nous les journalistes, on travaille beaucoup par groupe WhatsApp et il y a le groupe de la Fondation européenne pour le climat qui nous nourrit beaucoup en information. C'est quand même 143 journalistes francophones. Il y a une heure et demie, j'ai posté un petit message sur ce groupe en disant qui va à la COP désertification. Je n'ai pas eu une réponse. C'est quand même assez affligeant. Marie ?
Alors, sans y être, je précise quand même que dans les Échos, on a fait une page entière hier matin dessus et encore un article ce matin aussi.
Et alors, j'ai vu votre article, nous étions les deux seuls médias à en parler, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est la France s'est déclarée partie affectée. Et effectivement, j'étais même pas une dépêche AFP, si vous voulez, Anne-Cécile. J'ai vérifié, je me suis dit, tiens, suis-je le seul ? Non, les confrères des Échos ont parlé, nous étions les seuls. Voilà,
c'est parce que vous saviez, Marie, vous alliez venir dans cette émission aujourd'hui. Et alors, il y a une autre nouvelle importante. Attention, mesdames et messieurs, je vous annonce que Igor Strauss a enfin abandonné sa bouteille en plastique pour venir en studio avec une gourde.
Bravo!
Voilà, félicitations.
Elle est belle, Igor. Elle est en imitation marbre de je ne sais pas d'où, mais elle est belle.
Et oui, félicitations Igor. Comme nous sommes dans un pays où nous avons la chance de pouvoir boire de l'eau potable, c'est moins de plastique utilisé et c'est meilleur pour votre santé.
C'est mon petit geste.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Marie, vous nous parlez donc aujourd'hui de justice climatique. C'est un sujet que vous suivez pour les Échos. Et vous revenez sur la série d'audiences qui se déroule en ce moment à La Haye, à la Cour internationale de justice des Nations unies. Alors de quoi s'agit-il exactement et pourquoi est-ce que c'est un événement important pour les 98 États impliqués ?
Alors, ça se passe donc à La Haye, vous l'avez dit, et c'est sur un vote de l'Assemblée générale des Nations unies, donc que la Cour a été saisie pour faire une série d'audiences. Elle va rendre un avis, hein, donc c'est pas, il ne s'agit pas d'un procès, elle ne va pas rendre un arrêt, mais c'est un avis qui est consultatif, mais on le verra, qui est quand même très important, qui porte donc sur les obligations des États en matière de changement climatique. Alors, juste pour rappeler, il y a eu quand même des précédents dans ce genre de justice climatique envers un État, et un assez récent d'ailleurs, qui était au mois d'avril 2024. Vous vous souvenez peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu responsable la Suisse pour son action climatique insuffisante. Elle avait été saisie par une association de retraités suisses, donc qui ont obtenu gain de cause. Là, on est dans un cadre un peu différent. Il s'agit donc d'une justice entre États. Donc, on parle bien de est-ce que tel ou tel État, l'Union européenne, mais aussi tous les pays qui la composent, puisqu'ils font partie des 80 pays auditionnés. Je crois que cet après-midi, par exemple, les États-Unis sont auditionnés, la Russie. Demain matin, ce sera la France qui ouvre le bal. Donc, si ces pays ont tenu à être présents et à eux-mêmes, j'allais dire, porter leur argumentaire, c'est que la question, elle est quand même assez importante. On se demande, voilà, quelles sont les obligations, les États, ils annoncent. C'est pas ça la question. La question, c'est sur quel type d'obligation et qu'est-ce qui incombe aux États véritablement pour les rendre responsables des actions qu'ils peuvent mener pour limiter le réchauffement climatique. Et sur quel texte on s'appuie, en fait, c'est surtout ça. Et quelles conséquences, après, ça va avoir, bien sûr, sur leur politique climatique ou sur leur politique publique. Mais voilà, c'est là, je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est qu'on va, selon le travail et l'avis que vont donner les juges, on va savoir quels sont les textes sur lesquels on peut s'appuyer pour dire si un État a oui ou non, enfin peut oui ou non être avoir manqué à ses obligations. Parce que, en fait, la question, on pourrait se dire, tiens, c'est vrai qu'il y a des textes internationaux comme l'accord de Paris qui parlent spécifiquement de climat. Et c'est des textes très importants, il n'y a pas à revenir dessus. Mais il y a des textes beaucoup plus généralistes, comme par exemple la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la fameuse CNUC. Celle-là aussi, elle parle spécifiquement du climat, mais on pourrait remonter plus haut. On pourrait remonter à la Charte des Nations Unies de 1950. On pourrait aussi se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ces textes qui ne parlent pas, je me souviens avoir reçu Stéphane Hessel, oui, qui était désolé en disant « Nous avons oublié quelque chose dans cette déclaration, c'est le droit à un environnement sain ».
Effectivement, elle n'en parle pas, mais toute la question qui se pose ici, elle est, c'est de savoir si ces textes peuvent être appelés au secours, justement, des États qui demandent une justice climatique en disant, voilà, on est dans des droits humains et le climat en fait partie. Et je ne vous cacherai pas que les États les moins progressistes, bon, sans vouloir les montrer du doigt, mais on sait lesquels,
l'Arabie Saoudite, la Russie,
eux, ils ne veulent pas du tout qu'on prenne en compte ces textes beaucoup trop généralistes dans lesquels on peut faire rentrer beaucoup plus de responsabilités que dans les textes plus spécifiques qui sont sur le climat, comme l'accord de Paris.
Simon Rosé.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, et par rapport à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que vous mentionnez, c'est également le lien qui est fait avec les droits humains, justement. La Suisse est condamnée puisque son inaction à lutter contre le changement climatique est attentatoire aux droits humains de ses aînés pour le climat qui avaient porté plainte. Et là, pour le coup, cette mention au respect des droits humains, on le trouve dans une foultitude de traités, de textes internationaux qui sont pris depuis l'après-guerre.
Alors, on parle pas, Marie, on parle bien plutôt d'un avis consultatif, hein, vous l'avez dit, ce n'est pas un jugement. Mais alors, du coup, pourquoi est-ce que c'est suivi avec autant d'intérêt?
Alors, c'est vrai que ça pourrait être un peu contre-intuitif. On se dit, ben voilà, il n'y aura pas un avis consultatif, il n'y a rien de contraignant, donc ce n'est pas très grave. En fait, ça peut avoir une portée très importante. Et on le voit, les simples déclarations, comme la déclaration du sommet de Rio pour le sommet de la Terre, ben, ce n'était pas du tout contraignant, ça a eu une portée mondiale et très importante. L'accord de Paris, entre nous, c'est une déclaration. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de contraignant, même si ça se décline ensuite.
Il est
ensuite
quand même ratifié par les parlements nationaux.
Mais par exemple, les États-Unis, ils considèrent que c'est juste une pure déclaration et qu'il n'y a rien de contraignant là tout de suite. Après, ça se décline dans le Green Deal européen, ça se décline dans les législations nationales des pays qui ont ratifié cet accord, mais il n'y a rien de contraignant. Et pour autant, il a quand même une portée très importante. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas négliger la portée politique et la portée médiatique que peuvent avoir ce genre de procès. Ça, c'est quand même très important. Et puis, ce que je trouve aussi important dans ces circonstances-là, on sort d'une COP 29, bon, où il y avait beaucoup de journalistes, peut-être moins que d'habitude, mais il y en avait quand même un petit peu, où on voit bien que les pays les plus vulnérables, et ce sont eux qui sont aussi à l'origine
Tout est parti de 27 jeunes du Vanuatu, une mobilisation peut aller loin. Et
tout à fait.
Ils avaient fait une sorte de faux jugement. État a trouvé ça bien. Ils ont dit, on va porter ça devant la Cour internationale de justice.
Ils ont obtenu le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est vrai que, effectivement, ça a abouti. Mais ça montre que ces États insulaires, c'est aussi un autre moyen, au-delà des COP et un peu de l'échec du multilatéralisme quand même au niveau du... Il faut bien le dire, cet accord de la COP 28, il était quand même assez décevant.
Oui, nous l'avons dit et redit dans cette émission.
Les pays les moins avancés étaient très déçus par le résultat, par l'accord. Donc du coup, il y a peut-être d'autres chemins qui sont possibles et ces audiences peuvent faire partie des points sur lesquels les pays les moins avancés peuvent appuyer pour plaider leur cause.
Simon ?
Très rapidement, juste un exemple du poids des avis de la CIJ, c'est, on l'a vu assez récemment sur la dispute de souveraineté sur l'archipel des Chagos entre Maurice et le Royaume-Uni, tout part d'un avis rendu par la CIJ en 2017, sur lequel, puisqu'il fait autorité, s'appuyait le Tribunal international du droit de la mer, et ce qui a poussé le Royaume-Uni à négocier, et ce qui a été conclu sur un accord entre les deux parties en octobre dernier, où le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Tout ça part d'un avis de la CIJ rendu il y a un peu moins de 10 ans maintenant.
Voilà, les avis de la Cour internationale de justice sont importants. Alors je vous signale que vendredi, dans C'est pas du vent, nous parlerons justement du droit de l'environnement avec l'avocate Corinne Lepage et la directrice de recherche au CNRS, Martha Toré-Chaube. Nous nous demanderons notamment pourquoi il est si difficile de le faire appliquer. Dans un instant, nous vous emmènerons en République démocratique du Congo, à Goma, où un ancien soldat se mobilise contre la déforestation. Mais d'abord, place à la musique, et c'est un choix de Simon Rosé, encore vous,
ouais.
A Tribe Called Quest.
Check the rhyme, la bonne humeur, sur RFI, la radio rap.
On the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract,
and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter.
Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean?
A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you gots to
okay.
Run the pigeon.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
You're on point, Fife.
All the time, Tip.
But then grab the microphone and let your words rip.
Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong. I slay that body and El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the Fife is not the man. Cause you know and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, cause none can test me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no home training, cause I misbehave. I come correct and full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word.
Check the vibe, y'all. Check the vibe.
On the boulevard of Linden, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the Viper,
and me, the abstract. The rhymes were so rumpin' that the brothers wrote the Zack.
Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block?
Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same.
You're on point, Tip.
All the time, Fife.
You're on point, Tip.
Yeah, all the time, Fife.
You're on point, Tip.
You're all the time, Fife.
So play the Resurrector and give the dead some life.
Okay, acknowledge. C'était le groupe américain
A Tribe Called Quest.
Voilà.
Check the rhyme.
Sur RFI avec Simon Rosé en DJ. Et voici la chronique hip-hop pour Petites Ondes Participatives. Hip-hop, c'est un réseau de vidéastes amateurs qui recueille des témoignages pour humaniser le débat. Et c'est une chronique de Caroline Filliette. Yeah.
Aujourd'hui, direction Goma, en RDC, où nous partons à la rencontre de Abia Mungu, ancien soldat, désormais fabricant de charbon écologique. Ce reportage hip-hop, intitulé « D'armes en braise », a été réalisé par Jérémy Wakilongo et nous allons en écouter un extrait.
Ce qu'on vivait dans la brousse, c'était horrible. Nos chefs nous utilisaient pour couper les arbres pour leur intérêt. Ils voulaient produire beaucoup plus de braise. Et cela a des conséquences néfastes sur la vie de la population. Vous allez voir, les animaux quittent le brousse pour aller ravager les champs de ce pauvre cultivateur. Alors, moi personnellement, je m'étais dit que ça peut être bien si je commence à fabriquer de braise écologique. Je commence d'abord par identifier là où les gens jettent ces ordures. Je fais le triage. Après avoir fait le triage, je les assèche. Ensuite, je pile ça. Enfin, maintenant, je donne une forme de braise. Ça va permettre l'accès à tout le monde de pouvoir en avoir. Et de deux, maintenant, ça contribue à la lutte du réchauffement climatique. Et j'appelle à tous ces gens qui sont dans la forêt, tous ces jeunes-là, qui sont dans des groupes armés, de pouvoir rejoindre la communauté.
Bonjour, Jérémy Wakilongo.
Oui, bonjour Caroline.
Alors, vous êtes journaliste, reporter, membre du club RFI à Goma. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film réalisé en 2022. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le témoignage de Abia Mungu ?
Merci beaucoup Caroline. Justement, ce que j'avais remarqué d'abord, ce qui m'avait plus intéressé, c'est l'histoire d'Abia Mungu. Il est issu d'une région instable. Il vivait à côté du parc national de Virunga et qui présente une diversité allant des faunes, de flore, voilà.
Alors Abia Mungu explique dans le film que quand il était soldat, il était obligé de couper les arbres pour vendre les braises ensuite. Est-ce que cette région de RDC est toujours aussi touchée par la déforestation ?
Oui, justement, cette région est plus touchée par la déforestation. Alors je vous explique. Il y avait d'abord plus de 40 groupes rebelles dans cet endroit. Alors, ces groupes rebelles avaient un seul moyen de, comme substance, trouver à manger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les arbres pour fabriquer la braise. Alors, beaucoup d'organisations internationales essayaient de sensibiliser, mais c'était en vain. Et en plus, il y a des contrebandes qui s'organisent dans ces milieux-là. Ça fait en sorte que il y a vraiment un problème écologique dans cet endroit.
Alors, ce film a été réalisé en 2022. Avez-vous des nouvelles de Abia Mungu depuis et savez-vous si son initiative a pris de l'ampleur à Goma ?
Oui, par rapport aux nouvelles d'Abia Mungu, actuellement, c'est trop compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Il était obligé également de fuir à cause de la guerre. Mais à part ça, il y a des mamans qui continuent toujours à perpétuer les fêtes d'Abia Mungu. Il y a des associations de mamans, même dans le cas des déplacés, ça continue toujours à se faire.
Merci beaucoup Jérémy pour votre éclairage.
Merci beaucoup Caroline.
Et oui, merci Caroline, merci à Gaëlle Flogère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et les chercheurs de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. Et je vous signale que la remise du prix hip-hop 2024 aura lieu en Facebook Live, c'est la semaine prochaine, le 12 décembre. Soyez attentifs, ça sera bien indiqué sur les réseaux puisque hip-hop est très actif sur les réseaux. RFI émet en 17 langues, nous en sommes très fiers et dans chaque langue, il y a un référent environnement et nous leur donnons la parole dans C'est pas du vent.
RFI. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde.
Es la migración más importante de insectos.
Barca mărsa ce ca sunt ceva.
C'est pas du vent.
Добрый день, вы слушаете подкасты международного французского радио RFI.
Nina Carrel de la rédaction russe de RFI, vous voulez nous parler d'une société française qui serait sur le point de redonner vie à l'une des mers les plus polluées du monde. Il s'agit de la mer Baltique qui est asphyxiée par les rejets organiques, chimiques et le plastique. Elle est aujourd'hui au cœur d'un projet de réoxygénation innovant. C'est la start-up Life qui prépare l'installation de son premier site pilote en 2026 en Suède. Expliquez-nous cela.
En fait, on pourrait croire que c'est un projet un peu fou, mais il est surtout pragmatique. La société nantaise Life est spécialisée en production d'hydrogène vert. et elle veut utiliser ces rejets industriels pour donner une bouffée d'oxygène à la mer Baltique. Car le gaz qu'elle rejette, c'est justement de l'oxygène.
Alors pourquoi est-ce que c'est la mer Baltique qui a été choisie ?
Alors parce que ces eaux sont saturées par les rejets d'engrais agricoles et des eaux usées des 9 pays riverains. C'est aussi une mer presque fermée, peu profonde, avec un cycle de renouvellement d'eau très lent. Le réchauffement climatique aggrave la prolifération des algues nuisibles qui consomment l'oxygène et accélèrent encore plus la perte de la biodiversité. Selon les experts, dès 80 mètres de profondeur, il existe déjà des zones mortes, dépourvues de vie. C'est pour ça que la start-up Life a choisi d'installer son premier projet pilote en Suède, en partenariat avec l'Université de Stockholm et des experts finlandais.
En quoi consiste, Nina, ce projet techniquement ?
La start-up française maîtrise déjà la production de l'hydrogène à terre. Sa première unité fonctionne en Vendée depuis 2021 et elle développe d'autres sites en France. Mais le projet pilote en Suède est différent. Il prévoit la production de l'hydrogène sur une plateforme en mer pour permettre d'injecter l'oxygène directement dans l'eau, une sorte de circuit court. Mais avec beaucoup de précautions, selon Mathieu Guéné, le fondateur de Life.
Life est un producteur d'hydrogène vert et on sait produire de l'hydrogène vert à terre mais aussi en mer. L'idée qu'on a développée, c'est de produire suffisamment d'hydrogène en mer sur des plateformes offshore en mer Baltique, le ramener à terre et alimenter les industriels, les voitures, les bus, les camions en Suède. Quand on produit cet hydrogène vert en mer, on va utiliser de l'énergie éolienne, de l'énergie offshore. Et au passage, quand on utilise cette énergie pour produire l'hydrogène, tout ce que va émettre notre plateforme, c'est de l'oxygène. On n'a pas d'émission de pollution, de CO2, on a une émission d'oxygène. Et si on utilise au bon endroit, à la bonne profondeur, dans les bonnes quantités, pour réoxygéner et buller comme on bulle dans un aquarium de l'oxygène, on peut redonner la vie, on peut redonner la possibilité à des organismes de croître. Et c'est ce qu'on va faire en mer Baltique. Ça, il faut l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que Life étudie avec ses docteurs en biochimie des océans, en partenariat avec l'Université de Stockholm, c'est quelle taille de plateforme, à quel endroit et à quelle profondeur doit-on injecter l'oxygène pour faire du bien à la mer Baltique, tout en produisant un carburant renouvelable, soutenable, et l'oxygénation, ça va être une partie de la solution. Ça fait beaucoup de sens dans certains coins de l'océan, ça fait beaucoup de sens sur certaines mers, mais ça ne va pas être la panacée.
En tout cas, Nina, Mathieu Guéné semble conscient des dangers.
En effet, cet ingénieur ne veut pas déséquilibrer davantage un écosystème déjà en souffrance avec un nouveau procédé. L'accompagnement scientifique rigoureux est primordial pour Mathieu Guéné. Les études pour identifier les meilleures conditions de réoxygénation vont durer 6 ans. Il est important de souligner que le projet LIFE a déjà retenu l'attention des experts de l'ONU qui l'ont sélectionné comme un projet porteur de la décade des océans en cours. C'est un gage de sérieux et de qualité.
Voilà, un exemple à suivre. En tout cas, Nina, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans un instant, nous vous démontrerons avec Audrey Yatoni que les clubs des auditeurs de RFI s'engagent pour l'environnement. Mais d'abord, un petit tour par le Brésil avec Daoresh et leur titre « Va Embora » dans ses pas du vent.
Mudo, só se mudou pra pior. Porque eu não vejo diferença desde que nós se cruzou. Amor que dó, tão só quando eu falo não. Sempre cercando quem te ama pra não ir embora. Você só querendo por suas poucas horas. Senhor, me dê-me paciência bem. Eu tô saindo fora, obriga das vivências pra não mandar pra outro lugar. Aprendi nisso que é bem fácil de me enganar. Minha camiseta da A Tribe, você pode ficar. Não quero nada que de você me faça lembrar. Eu tô, sim, eu tô bem melhor. Peregrinando no meu interior, me sentindo completo sempre que eu estou só. Só de ouvir seu nome, minha garganta dá um nó. Mas tá tudo bem, meu bem, bem, bem. Vai ficar tudo bem, meu bem, bem, bem. Assim tá tudo bem, meu bem, bem, bem. Vai ficar tudo bem, meu bem, meu bem, meu bem. Assim tá tudo bem, meu bem. Vai ficar tudo bem, meu bem, bem, bem. Tá tudo bem, meu bem, bem, bem. Vai ficar tudo bem, meu bem. Eu já disse, vai embora, por favor. Embora pra minha casa.
passa de se preocupar, só quando perde é mais que chique, novelada às oito. Não sou de suportar essas fitas. Veio me encontrar com a camiseta mais bonita e com um interior horrível. Toda aflita voltando na tarde daquele domingo cinza. Que as borboletas nos cercavam no jardim. Eu olhando pra você, você olhando pra mim. Os caminhos se abriam onde pisa e só faltou o chapeleiro. De volta ao desespero, chega do país das maravilhas. O mais triste da Elis Regina, na escrita mais profunda de Jobim. É o fim, suas roupas são na esquina. Está aqui o endereço, ótimo recomeço. Que do suma pra China, antes que volte o clima. Porque eu sei que sempre volta. E essa vontade sempre me escolta. E o não já vira sim, esse sim nunca me solta. Entre o amor e a revolta, entre o amor e a revolta. Eu já disse vai embora, por favor. Embora pra minha casa. Use suas asas e vem pra pertinho.
C'était Va Embora du Brésilien Daoresh, un titre que vous pouvez retrouver comme beaucoup d'autres dans la playlist RFI, disponible sur toutes les plateformes. Voici l'heure de la chronique des clubs RFI.
La chronique des clubs RFI.
RFI a beaucoup de chance, nous avons 70 clubs d'auditeurs à travers le monde. Ils sont nombreux à s'engager dans des actions de sensibilisation et notamment dans le domaine de l'environnement. Bonjour Audrey Yatoni.
Bonjour Tessie.
Vous coordonnez avec Sébastien Bonijol les projets de développement de ces clubs et vous rentrez de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes allé à la rencontre des membres du club RFI Bukavu.
Tout à fait, entre autres, et je suis venue ici pour relater une des initiatives en fait militantes de ce club. Donc Bukavu qui se situe dans le sud Kivu très précisément, et cette action a commencé en fait le 10 novembre dernier, après que le réseau des clubs RFI ait reçu plusieurs témoignages d'abattage massif d'arbres en plein cœur du parc national de Kahuzi-Biega. Pour rappel, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis près de 45 ans maintenant. Le club RFI Bukavu porte depuis des années un regard très bienfaiteur sur ce parc en fait qui est voisin et sur en fait l'état de sa faune et de sa flore. Ils ont donc décidé de se rendre sur le territoire dit de Kaélé qui se trouve à la limite de Kabaré et malgré les difficultés d'accès, ils ont pu aujourd'hui ils peuvent témoigner aujourd'hui à notre antenne de ce qu'ils ont vu sur place. On écoute Nicole Bahati, qui est la présidente du club RFI Bukavu.
Avant de lancer les alertes, on a constitué une équipe qu'on a envoyée sur le terrain, qui est partie s'inquiéter de la situation. Bon, ce n'était pas facile de filmer, mais quand même, on s'est débrouillé tant bien que mal, parce que bon, il y a quand même une milice qui est installée à l'intérieur. Et ce qu'on a vu nous a choqués. On a vu des entrepôts où on stockait des sacs et des sacs, des milliers de sacs de braise qui ont été fabriqués à partir des arbres qu'ils ont coupés dans le parc. Et ces braises quittent chaque jour, en tout cas le soir, par jour même 500 camions qui se dirigent vers le port à côté là-bas. Et ils sont vendus dans la ville de Bukavu, de Goma. Et une grande partie en tout cas, traverse pour aller au pays voisin, le Rwanda. Il n'y a pas que la braise, il y a les arbres aussi. On fait des planches et des camions de planches quittent chaque jour le parc à destination de Goma, Rwanda et Bukavu. Et cela nous a fortement alertés.
Et c'est à partir de là que la mobilisation a commencé et qu'un mouvement citoyen s'est levé, Audrey, pour défendre justement la conservation du parc dans son intégralité.
Et en effet, car le PNKB, le parc national de Kahuzi-Biega, c'est 600 000 hectares de forêt tropicale humide, dont une partie constituée de forêts primaires. Cet environnement regorge de biodiversité et constitue un des poumons les plus puissants de notre planète. Il abrite aussi les dernières espèces de gorilles de Groer, appelées aussi les gorilles au dos argenté. Au dernier recensement, plus de 10 familles y vivaient et c'était en 2019.
Mais l'accélération du pillage des ressources naturelles de certaines zones de ce parc n'épargne pas malheureusement les gorilles.
Le braconnage, tout comme l'exploitation minière et la déforestation, alimente des trafics illicites. Et cette espèce qui peine déjà à subsister se retrouve une nouvelle fois menacée alors qu'elle devrait être protégée.
Alors, quelle forme a pris la mobilisation citoyenne dans ce contexte ?
Il fallait d'abord sortir du silence. Un collectif constitué du Club RFI Bukavu, qui s'est rallié au Casque Vert et à d'autres organisations de défense de l'environnement local, s'est rallié en fait et a donné l'alerte. Nicole Bahati revient sur les prémices de cette mobilisation.
Il a fallu que la société civile, nous, Club RFI, qu'on prenne la situation en main. On n'a pas fait seul, on a essayé de regrouper plusieurs autres associations qui œuvrent dans le domaine, notamment le Casque Vert et d'autres organisations de promotion de l'environnement. On a lancé des alertes, alerte à la déforestation, alerte à la destruction du parc, mais il n'y a pas eu de réaction. Pendant un moment, on a vraiment alerté sur les médias, les réseaux sociaux, ensuite de suite. On a essayé d'entrer en contact avec certains responsables gestionnaires du parc, le gouvernement et tout, sans succès. On s'est dit, il faut une action d'envergure.
Et Audrey, ça veut dire quoi une action d'envergure ?
Le collectif a rapidement annoncé la tenue d'une grande marche de dénonciation à travers la ville. Il s'est aussi attelé à la rédaction d'un mémorandum contenant des recommandations destinées à chacun des différents niveaux décisionnels. En priorité l'État, la province, les organes de gestion du parc, les bailleurs, la communauté riveraine et aussi bien sûr la société civile en général. Le but était de rappeler à chacun le rôle qu'il a à jouer et l'intérêt de tous à défendre ce parc de toute urgence. Et ce pari s'avère un pari réussi, en partie tout au moins, car les autorités provinciales se sont positionnées, comme l'explique la présidente du club RFI Bukavu.
Alors, nous sommes contents parce que quelques jours plus tard, il y a quand même eu déjà des décisions qui ont été prises, notamment un arrêté qui portait interdiction formelle d'exploitation, de commercialisation de ressources provenant du parc. Et ça, c'est une grande réussite que nous ne nous approprions pas tout seuls parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations, beaucoup de personnes qui ont milité avec nous, qui d'autres, chacun de son côté peut-être, a eu une initiative. Et l'effort collectif a donné de fruits, mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes dit que c'est un premier pas. On n'a pas encore atteint l'objectif.
Et Audrey, justement, les objectifs du club RFI de Bukavu, ce sont évidemment que les arbres ne soient plus décimés et que les gorilles vivent en paix.
Et oui, l'enjeu est de ne pas baisser la vigilance et que cet arrêté préfectoral puisse être appliqué. Toute cette mobilisation prouve déjà qu'il est possible de s'accorder autour de l'intérêt commun de la sauvegarde de ce patrimoine unique. Énormément de personnes y œuvrent déjà chaque jour. Et c'est dans la voix de Nicole que se définit un des idéaux à atteindre.
On ne peut pas croiser les bras et dire que bon, il y en a déjà qui font, donc ça va. En fait, l'objectif, l'idéal, si je puis me permettre, c'est de ramener toute la jeunesse à s'approprier cette lutte. Parce que nous n'avons qu'une seule planète et il faut que chacun y mette du sien pour la conserver, pour la garder en état. Sinon, on n'a pas d'avenir.
Et voilà le bel appel de Nicole du club RFI de Bukavu. Igor Strauss, vous vouliez...
Oui, ben moi je connais ce parc parce que j'avais été il y a quelques années. Je vous avais fait un reportage d'ailleurs sur Gorilla FM. Et la protection de cette forêt et des gorilles de Groeur, ça revient depuis de nombreuses années. Pour les sauver, on avait dû chasser les gardiens de la forêt, à savoir les pygmées. Donc à l'époque, moi j'avais rencontré tous ces pygmées qui avaient été chassés de la forêt et ils m'expliquaient que eux, ils connaissaient les plantes, eux pouvaient chasser les braconniers, eux vivaient. Ont toujours vécu en harmonie avec les gorilles, on les a chassés de la forêt, le problème ne fait qu'empirer finalement.
Merci Audrey Yatoni, donc coordinatrice des projets de développement des clubs RFI.
Merci.
RFI. Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'est pas du vent@rfi.fr.
Igor Strauss, justement, la 16e conférence des Nations Unies pour lutter contre la dégradation des terres a ouvert ses portes lundi à Riyad. C'est votre sujet de la semaine.
Oui, alors peut-être je vous fais un petit rappel des faits.
Oui, on en a déjà pas mal parlé
sur l'antenne. Donc 40% des terres dégradées, 40% des terres agricoles, donc des terres qui sont censées produire, eh bien sont dégradées, ce qui affecte la moitié, quasiment la moitié de l'humanité. Il y a 100 millions d'hectares de terres qui sont dégradées chaque année. À ce rythme, ça sera 1,5 milliard d'hectares qu'il faudra restaurer d'ici 2030. Ça, c'est pour le constat. Maintenant, la solution, cette COP, ce qu'on en attend, et j'ai envie de vous parler, moi, des petits paradoxes. On en a un petit peu parlé au début.
Alors, juste rapidement, une terre dégradée, ça veut dire qu'il n'y a plus suffisamment d'organismes dans le sol pour que le sol vive
produise. Et quand on dit produire, c'est-à-dire produire de la nourriture, mais aussi, c'est tous les services que rend un sol en bonne santé, à savoir stocker du carbone, l'eau, ça permet de purifier l'eau. Enfin, voilà, il y a tous ces bienfaits du sol. Moi, la question que je me pose, les paradoxes que je voulais soulever, c'est cette façon de compartimenter. On sait qu'il y a une COP biodiversité, une COP climat, une COP désertification.
Ah ben là, elles s'enchaînent toutes voilà. En cette fin d'année, donc on est bien au courant.
Tout est intrinsèquement lié, tout est interconnecté. Quand vous plantez un arbre, c'est bon pour la biodiversité, mais c'est bon pour l'agriculture, c'est bon pour le climat. On l'a dit tout à l'heure, tous les journalistes sont à la COP climat, personne à la COP désertification. Ça pose question le choix du pays, l'Arabie Saoudite. On sait que l'Arabie Saoudite a fait pression justement pour faire capoter la COP climat, a fait capoter les accords de Busan sur le plastique. Et maintenant, elle organise la COP désertification, elle souhaite pousser pour régler le problème, alors qu'elle ne souhaite pas régler le problème en amont, qui est le problème du réchauffement climatique. Et alors que tout est interconnecté. Il y a plusieurs comme ça des choses qui sont très paradoxales. Il y a eu un rapport qui est sorti qui a montré que c'était l'agriculture intensive qui était la principale responsable de la dégradation des sols. Il y a aussi la sécheresse, il y a d'autres phénomènes. Mais la principale responsable, c'est l'agriculture intensive. On connaît la solution, l'agroécologie. Qu'est-ce qu'on fait à côté? On va faire un petit peu de pédagogie, expliquer à nos auditeurs. Il y a plusieurs groupes dans ces COP. Il y a le groupe Afrique, le groupe Asie et le groupe WEOG pour West European Countries et Other Groups. En gros, les pays industrialisés. 168 pays se sont déclarés affectés par la sécheresse. Les autres non affectés, dont la France, par exemple, et les États-Unis. Pourquoi elles se déclarent non affectées? Ce qui est d'ailleurs un contresens scientifique. En France, ça a été prouvé par le comité scientifique qui gère la désertification, 1% des terres sont dégradées. Le sud de la Méditerranée, le sud de la Corse, Mayotte et La Réunion principalement. Donc scientifiquement, la France, on le sait, est affectée, mais elle ne se déclare pas comme telle. Pourquoi? Comme ça, elle n'a pas appliqué les décisions qui sont prises lors de la COP, et elle reste maître de sa politique agricole.
Mais hier, elle a changé d'avis.
Hier, elle s'est déclarée, effectivement, on en a parlé, les échos également, elle s'est déclarée partie affectée. Mais le problème est toujours le même. La France soutient la FNSEA, le principal syndicat agricole français, qui milite pour l'utilisation des pesticides, du glyphosate, qui est pour l'agriculture intensive. Donc, on conseille d'un côté de faire certaines choses, on a les solutions, mais dans nos propres pays, on ne l'applique pas. Et je ne parle pas de l'Amérique de Trump, vous rendez compte. Donc, autre paradoxe, on pousse, les États africains poussent pour un protocole sécheresse qui serait contraignant, type protocole de Kyoto qui avait été fait pour le climat. Les autorités françaises, je les ai au téléphone, disent non, nous on ne soutiendra pas parce qu'on ne veut pas multiplier les fonds. C'était déjà un grand reproche qu'on avait fait lors de la COP15, les spécialistes lors de la COP15 à Abidjan, donc il y a 2 ans, avaient dit que la sécheresse n'était pas un enjeu qui avait été pris à sa juste mesure. 2 ans après, on a eu des années, des sécheresses, on a battu tous les records de sécheresse, année la plus chaude, et on ne fera rien sur le protocole, sur cette demande des États africains d'avoir un protocole sécheresse. C'est alors tous ces paradoxes, moi, qui m'interrogent.
Oui, et qui vous animent, on l'entend bien. Alors, vous dites, il ne se passera rien, nous verrons bien, puisque nous serons, vous et moi-même, tous les deux, la semaine prochaine, en direct de Riyad, pour faire vivre, justement, cette conférence aux enjeux cruciaux. Si peu médiatisé. Oui, Marine Bélan, des échos.
Une petite précision, c'est vrai que 1% seulement des terres, effectivement, sont scientifiquement concernées par la dégradation des terres, parce que ce sont des zones dites arides, semi-arides ou subhumides, sèches, selon la définition des Nations Unies. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il y a beaucoup plus que 1% des terres en France qui sont affectées par l'agriculture intensive et dont les sols sont dégradés et devenus avec des rendements bien moindres. Voilà, c'est beaucoup plus que 1%. Simon Rosier.
Et on en vient à toute une difficulté, et je pense qui explique en partie le manque de publicité qu'on fait autour de la COP désertification, mais également biodiversité, c'est le manque d'indicateurs. Pour la COP climat, c'est très simple, c'est la tonne de carbone. Et en plus, il y a un lien physique entre le carbone, la quantité de carbone dans l'atmosphère et le niveau de réchauffement. Une forêt qui va bien avec une bonne diversité. Comment on le compte ? Compte le nombre d'espèces, d'animaux. Un sol qui va bien, c'est le nombre de vers de terre au mètre carré. Il n'y a pas d'indicateur aussi simple, aussi vulgarisant, entre guillemets, que cette tonne de carbone. Et ce problème, mal nommer les choses, c'est mal les comprendre, et c'est mal agir dessus. Et c'est un gros problème qu'ont les communautés qui travaillent sur la biodiversité et la dégradation des sols. À partir de quand on dit qu'un sol est dégradé, qu'il est restauré, comment on met ces indicateurs en place ?
Et à partir de quand restaurer un sol rapporte vraiment de l'argent autant qu'investir dans les énergies renouvelables ? C'est peut-être aussi une question à se poser pour comprendre les mobilisations dans les différentes COP. Simon, vous vouliez aussi nous parler d'une innovation économique,
d'argent
qui prend de l'ampleur. Ces pays qui échangent leurs dettes contre de la préservation du vivant.
Qui restructurent leur dette en fait pour payer moins cher, et l'argent ainsi économisé est censé aller dans des programmes de conservation de la nature. Pourquoi j'en parle ? Parce que l'Équateur a entamé hier les démarches pour en faire un nouveau. Ils en ont déjà fait un de ces accords qu'on appelle dette contre nature, où ils avaient mobilisé 1,6 milliard de dollars pour à destination des Galapagos, cet archipel à la biodiversité complètement incroyable. Là, ils espèrent lever 1 milliard pour la protection de l'Amazonie, de la forêt amazonienne qu'ils ont en Équateur. Et c'est un instrument qui existe depuis les années 80, qui a été mis en place au moment de la dette des pays d'Amérique latine, qui est tombé un peu en déshérence et qui depuis 2016-2017 revient un peu à la mode, entre guillemets, qui a sur le papier des avantages. Vous payez moins cher votre dette et en échange, vous investissez pour conserver votre nature. Comme ça dit, comme ça, a priori,
après,
c'est plutôt chouette.
Après, ça pose pas mal
chouette.
De questions. Qui contrôle ?
Après, ça reste de la finance. Donc, des intermédiaires, en veux-tu, en voilà. Par exemple, je crois que c'est Belize, je ne retrouve pas, mais je veux dire de tête, Belize en avait fait un montage comme ça. Il y avait 8 sociétés intermédiaires qui étaient arrivées dans l'eau, 8 sociétés toutes basées dans des pays riches. Les Seychelles en avaient fait un, et finalement, le coût du montage avait coûté plus cher que l'argent qu'ils ont eu pour restaurer, pour faire leur programme de conservation.
Le Gabon a aussi proposé quelque chose.
A lancé un programme à destination de sa forêt. Et en fait, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que ça se joue beaucoup sur la dette privée de ces pays et pas la dette publique. Or,
là, ça devient technique.
Oui, parce qu'une dette publique, on peut la rediscuter de gré à gré. Disons qu'on est deux pays, on va parler, mais ça va prendre des années pour le faire. Si vous êtes une entreprise privée, ça va être plus simple, en gros. Problème, c'est que la majorité des pays du monde sont endettés auprès de bailleurs publics, donc sont de fait exclus de ces programmes d'échange de dette contre nature. Et ne sont éligibles que les pays qui ont des dettes privées. Et du coup, ça augmente le nombre d'intermédiaires, ça augmente le coût du montage, et ce qui fait que malgré tout, il n'y a que 5 pays, les Seychelles, Belize, la Barbade, l'Équateur et donc le Gabon, qui ont mis en place de tels projets. Autre biais, ce sont des programmes de conservation uniquement, donc on s'appelle tâche à travailler sur quelque chose qui va déjà bien, on l'empêche de se détériorer, c'est déjà pas mal, mais on ne va pas les restaurer. Alors il y a plusieurs pistes. La BAD, la Banque africaine de développement, a par exemple commencé à envisager un programme avec la RDC sur le charbon, mais on en reparlera une autre fois.
Oui, vous entendez le générique lancé par François Porcheron. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Marie Bélan d'être venue dans C'est pas du vent. Les auditeurs peuvent vous lire sur le site des Échos, leséchos.fr. Merci à tous, merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.